Frères et sœurs, les lectures de ce dimanche, en particulier la première et l'évangile, me rappellent trois inscriptions que j'ai pu lire en Terre Sainte, puisque j'ai vécu 15 ans à l'école biblique, comme étudiant d'abord, puis ensuite comme chercheur enseignant, j'ai eu le temps de visiter un peu cette région. Une inscription récente et deux très anciennes. L'inscription récente, tout d'abord, dans la partie occidentale de la Jérusalem moderne, il y a une rue, une toute petite rue, qui s'appelle la rue Koresh. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais Koresh, c'est tout simplement la version hébraïque du nom du roi Cyrus, le roi dont Isaïe nous a parlé ce matin. Au VIe siècle avant notre ère, ce roi de Perse a permis à l'élite juive qui avait été exilée à Babylone de revenir en Israël et d'y rebâtir le temple. Et vous avez bien entendu les mots d'Isaïe, ce roi païen, Dieu et son prophète l'appellent Messie, en grec Christ. Comble d'ironie, la politique change selon les périodes, c'est le chef de l'Empire perse, dont le descendant actuel est l'Iran, farouche ennemi d'Israël. Et vice-versa, d'ailleurs. Deuxième souvenir. Sur la côte ouest d'Israël, il y a un grand site archéologique, celui de Césarée Maritime, ville fondée par Hérode le Grand en l'honneur de l'empereur romain. Ville importante où on a découvert une stèle mentionnant le préfet de Judée, c'est son titre exact, Ponce Pilate. C'est là aussi que Pierre a baptisé le premier païen, le centurion Cornèle. C'est là encore que Paul s'est embarqué pour chacun de ses voyages missionnaires. Ensuite, au IIIe siècle, c'est là qu'Origène a fondé un centre d'études bibliques en dialogue avec les rabbins. Et c'est encore là qu'au début du IVe siècle, l'évêque Eusèbe a rédigé sa fameuse histoire ecclésiastique sur l'épopée chrétienne depuis ses origines. C'était donc un site incontournable pour les étudiants de l'école biblique. Or, à cette époque, c'était il y a 35 ans, lorsque nous avons visité le site, la partie byzantine de la ville était encore largement inexplorée. Mais notre guide connaissait bien l'endroit, et il nous a emmenés à un endroit précis où il a dégagé le sable et les quelques broussailles qu'il y avait et a fait apparaître deux médaillons en mosaïque d'environ 50 cm de diamètre avec une belle inscription grecque. Ces grandes inscriptions, ces belles lettres, c'étaient des citations du Nouveau Testament. Et c'est une première en Terre Sainte, je crois même que ça reste une première, c'est la seule inscription du Nouveau Testament que l'on voit sur le sol de Terre Sainte. Alors nous avons rêvé, nous nous sommes dit, est-ce que par hasard on aurait découvert un pavement de la bibliothèque fondée par Origène au IIIe siècle ? Mauvaise pioche, puisque les mosaïques sont plus tardives. Et puis la surprise continue, avec un peu de déception aussi. La citation du Nouveau Testament que contenaient ces deux inscriptions, c'était la même, mais plus longue dans un des médaillons. Cette citation provient du chapitre 13 de la lettre de saint Paul aux Romains. Et elle dit ceci, version courte sur un premier médaillon, « Si tu veux ne pas avoir à craindre l'autorité, tu n'as qu'à faire le bien. » Et sur l'autre médaillon, la citation continue par ces mots, « Et tu en recevras des éloges. » Lisez le début du chapitre 13 de Romains, verset 3, vous verrez cela. C'est troublant, parce que cette lettre de saint Paul aux Romains, qui a fait tant de bruit dans l'histoire, vous savez que la réforme de Luther a commencé par une relecture de cette lettre, et que l'aventure de la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, après Vatican II, juste après Vatican II, c'est aussi accroché d'abord à ce texte de Paul, donc, si riche en théologie, en spiritualité, eh bien, on peut se poser la question, pourquoi ce pavement byzantin portait-il une citation si fade, hein, si tu veux faire le bien, si tu veux pas avoir de problème avec l'autorité, fais le bien. Puis ce sera très bien comme ça pour tout le monde. Énigme. C'était dans les années 80. La réponse m'est venue dans les années 90, lorsque les fouilles du terrain du site de César et Maritime ont progressé. Le quartier byzantin était bien dégagé et le site des médaillons, le site précis des médaillons, a révélé sa véritable identité. C'était le vestibule de l'hôtel byzantin des impôts. Autrement dit, pour faire entrer l'argent dans les caisses, le service byzantin du fisc avait réquisitionné Saint-Paul. Dieu le veut, payez vos impôts et vous n'aurez pas de problème avec le pouvoir en place. Nouveau souvenir de Césarée. Peut-être à l'occasion de la même visite, je me souviens plus ou un peu plus tard. Dans une autre partie du site, on a dégagé une très belle villa romaine. Et sur son seuil, là où nous mettrions nous un tapis ou un paillasson pour bien s'essuyer les pieds avant d'entrer, il y avait une mosaïque, peut-être d'ailleurs en forme de tapis, c'était souvent le cas, qui portait aussi une inscription grecque, une belle inscription, qui disait « Que demeure la paix des chrétiens ». Citation étonnante, phrase étonnante. J'ai consulté les ouvrages techniques en lien avec l'archéologie de Césarée Maritime. J'ai eu l'occasion à Fribourg d'interroger un archéologue spécialiste de l'archéologie paléochrétienne et byzantine, mais apparemment, on ne connaît pas d'autres sites où il y ait une telle formule « Que demeure la paix des chrétiens ». Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Le mystère reste entier. On se pose des questions. Est-ce le témoin d'un conflit entre des factions chrétiennes, un conflit qui se serait enfin apaisé, ou dont un citoyen souhaitait l'achèvement rapide? Pas sûr. Est-ce la trace d'une joute interreligieuse entre chrétiens et juifs, ou chrétiens et païens? C'est douteux. Est-ce tout simplement un bel éloge de la paix du Christ, non plus la Pax Romana qui est érigée en système politique par l'Empire romain, tout autour du bassin méditerranéen, mais la Pax Byzantina ou Christiana, royaume ou civilisation issue de la foi en Jésus, le véritable prince de la paix. La question reste ouverte, il n'y a pas de réponse. Que veut dire ce vœu que demeure la paix des chrétiens? Mais évidemment, nous pouvons le faire nôtre. Et le pape François n'arrête pas de dire ça, finalement, que la paix du Christ s'établisse dans ce monde. Ces souvenirs de l'antique Césarée ou de la Jérusalem moderne évoquent pour moi le rapport entre ce que saint Augustin va appeler les deux cités, le conflit des deux cités. La cité terrestre, avec son organisation politico-économique, et la cité céleste, celle dont nous parle l'Apocalypse, celle où règnent la paix et la justice de Dieu. On aura ces mots, quelques mots très semblables, dans la préface du dimanche du Christ roi, dans quelques semaines. Le règne du Christ est un règne de paix, de justice, d'amour, etc. Ce n'est pas un règne de ce monde. Alors, revenons à l'évangile d'aujourd'hui, et en l'actualisant. En payant l'impôt, non plus à César, mais au fisc de leur pays, les chrétiens se soumettent-ils au pouvoir public? Font-ils allégeance? Il semble qu'un de nos politiciens a dit dans ces derniers mois qu'il n'y aurait rien au-dessus des lois de la République. Est-ce que c'est notre credo? Jésus, qui répond à ses adversaires, les étonne. Il nous étonne peut-être nous aussi. Il nous dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Mais comprenons bien ce qu'il veut dire. Il ne veut pas dire « Scindez votre vie en deux, la semaine pour la politique et les impôts, le dimanche pour Dieu ». Non, toute notre vie appartient à Dieu, toute notre vie. Mais l'être humain, et à plus forte raison l'être chrétien, n'est pas un animal solitaire. L'être humain est un être social et sociable. Nous ne pouvons pas faire comme si nous étions tout seuls. L'exercice du pouvoir politique est donc légitime et même nécessaire. Et le catéchisme de l'Église catholique le dit clairement. Je vous le cite, la soumission à l'autorité et la co-responsabilité du bien commun exigent moralement le paiement des impôts, l'exercice du droit de vote, la défense du pays. Aujourd'hui, le pape François va un peu plus loin, parce que les événements l'y poussent, et l'Esprit, évidemment, l'Esprit Saint. Il y a 15 jours, il nous disait « Fratelli tutti », nous sommes tous, tous les êtres humains, des frères et des sœurs. La crise actuelle, crise sanitaire, crise météorologique aussi, crise politique, crise civilisationnelle finalement, cette crise nous invite à nous soucier les uns et les autres, qui que nous soyons, quelles que soient nos convictions religieuses ou philosophiques, à nous soucier ensemble du sort de notre maison commune, mais sans jamais l'idolâtrer, sans jamais idolâtrer ce monde. Dieu seul mérite notre amour inconditionnel et le don total de nous-mêmes. Amen.